Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Deuxième partie. Fin de la première section. Se convertir, c'est en effet sortir du mal et entrer dans le bien, dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, puisque, pour le sujet, c'est mourir au péché, par suite à toutes les inclinations, en tant qu'elles nous y induisent, pour vivre à la justice. Or, cette conversion, en tant que détermination intellectuelle, ne comporte pas deux actes moraux séparés par un intervalle de temps, mais elle n'est qu'un acte unique, parce que l'abandon du mal n'est possible qu'au moyen de l'intention bonne, qui nous ouvre l'entrée du bien, et vice-versa. Le bon principe est donc contenu aussi bien dans l'abandon de l'intention mauvaise que dans l'acceptation de la bonne intention, et la douleur qui accompagne, comme il est juste, la première, disparaît tout à fait de la seconde. Quitter l'intention corrompue pour s'engager dans la bonne intention, ce qui est mourir au vieil homme, crucifier la chair, est en soi déjà un vrai sacrifice, car c'est le premier pas dans une longue série des maux de la vie. Et l'homme nouveau les accepte dans l'intention du Fils de Dieu, simplement pour l'amour du bien, quoique cependant, à vrai dire, indus, comme châtiment, être réservé à un autre, c'est-à-dire au vieil homme, car moralement c'est bien un autre homme. Ainsi, bien que physiquement, considéré du point de vue de son caractère empirique d'être appartenant au monde des sens, l'homme nouveau demeure le même homme coupable et doit, comme tel, être jugé devant un tribunal moral, et par suite aussi par lui-même, dans son intention nouvelle, comme être intelligible, il n'en est pas moins un autre moralement, aux yeux d'un juge divin, pour qui l'intention vaut l'action. Et cette intention, adoptée par lui avec toute la pureté qu'elle avait dans le Fils de Dieu, ou, si nous personnifions cette idée, ce Fils de Dieu lui-même se substitue à lui et aussi à tous ceux qui croient, pratiquement en lui, pour porter le poids de leurs fautes, est le Sauveur qui satisfait par ses souffrances et par sa mort à la suprême justice, et l'avocat qui fait qu'ils peuvent espérer de paraître justifiés devant leur juge, pourvu que, dans cette façon de voir, on se représente cette souffrance que le nouvel homme doit accepter sa vie durant en mourant au vieil homme. Comme une mort qu'a souffert une fois pour toutes le représentant de l'humanité. Note. L'intention morale, quelque pure qu'on la suppose, ne produit rien de plus dans l'homme, considéré en tant qu'être physique, qu'une tendance continuelle à devenir, en fait, par conséquent dans le monde sensible, un sujet agréable à Dieu. Qualitativement, étant donné qu'il faut la concevoir comme ayant un principe suprasensible, cette intention doit être et peut être, il est vrai, sainte et conforme à son modèle. Quantitativement, telle qu'elle se traduit en action, elle demeure toujours défectueuse et infiniment éloignée de cette perfection. Néanmoins, cette intention, parce qu'elle contient le principe du progrès continu dans la correction de ses défectuosités, comme unité intellectuelle du tout, tient lieu de l'acte dans sa perfection. Mais, se demande-t-on, celui qui n'a rien en soi de répréhensible, ou en qui rien de tel ne doit se rencontrer, peut-il bien se croire justifié et continuer quand même à s'attribuer, comme châtiment, les souffrances auxquelles il se heurte dans sa marche vers un bien toujours plus grand, avouant par là même qu'il mérite d'être puni et qu'il a par suite une intention désagréable à Dieu? Oui, mais seulement en la qualité de l'homme qui ne cesse de dépouiller continuellement. Ce qui, en cette qualité, en sa qualité de vieil homme, devrait le frapper comme châtiment. Je veux parler de toutes les souffrances et de tous les maux de la vie. Il l'accepte avec joie, simplement pour l'amour du bien, en qualité d'homme nouveau. Ses souffrances, par conséquent, ne lui sont pas, en cette qualité et comme homme nouveau, attribuées en tant que châtiment. Et tout ce qu'on veut dire en s'exprimant ainsi, c'est que tous les maux et toutes les souffrances à endurer, que le vieil homme aurait dû s'attribuer comme châtiment, et que réellement, en mourant au vieil homme, le juste s'est attribué comme tel, il les accepte volontiers, en qualité d'homme nouveau, comme autant d'occasions d'apprécier et d'exercer son intention dirigée vers le bien. Et ce châtiment est lui-même l'effet tout autant que la cause de cette intention, et par suite aussi du contentement et du bonheur moral consistant dans la conscience des progrès que l'homme fait dans le bien, et qui sont un seul et même acte avec l'abandon du mal. Tandis que dans l'ancienne intention, ces mêmes mots auraient non seulement été des châtiments, mais auraient même dû être ressentis comme tels. Parce que, même considérés comme de simples mots, ils n'en sont pas moins opposés directement à ce que l'homme prend dans cette intention pour son unique but comme bonheur physique. Fin de la note, retour au texte. Après cette longue note, pour plus de clarté, je reprends la dernière phrase du texte. Et cette intention adoptée par lui avec toute la pureté qu'elle avait dans le Fils de Dieu, ou, si nous personnifions cette idée, ce Fils de Dieu lui-même se substitue à lui, et aussi à tous ceux qui croient, pratiquement en lui, pour porter le poids de leurs fautes, est le Sauveur, qui satisfait par ses souffrances et par sa mort à la suprême justice, et l'avocat, qui fait qu'ils peuvent espérer de paraître justifiés devant leur juge, pourvu que dans cette façon de voir, on se représente cette souffrance que le nouvel homme doit accepter sa vie durant en mourant au vieil homme, comme une mort qu'a souffert une fois pour toutes, le représentant de l'humanité. Nous avons donc ici le surcroît qui s'ajoute au mérite des œuvres et que nous désirions plus haut, et c'est là un mérite à nous attribuer par grâce. Car ce qui est pour nous pendant la vie terrestre et peut-être demeurera dans tous les temps futurs, aussi bien que dans tous les mondes, toujours, en simple devenir, nous est attribué par là, tout comme si nous en avions déjà la pleine possession, bien que nous n'y ayons aucun droit, d'après la connaissance empirique que nous avons de nous-mêmes. Note : une aptitude à recevoir ce don. Voilà seulement ce que nous pouvons nous attribuer en partage. Or, la décision par laquelle un supérieur octroie à son subordonné un bien par rapport auquel celui-ci n'a que la réceptivité morale, c'est ce que l'on appelle grâce. Fin de la note, retour au texte. Dans la mesure où nous nous connaissons nous-mêmes, incapables de mesurer directement notre intention et ne le pouvant que d'après nos actes, l'accusateur qui est en nous prononcerait plutôt une condamnation. C'est donc toujours uniquement à un décret de grâce, mais qui cependant, en tant qu'il se base sur la satisfaction contenue pour nous seulement dans l'idée de l'intention prétendue améliorée, chose que Dieu seul peut connaître, est parfaitement conforme à la justice éternelle que nous devons de nous voir déchargés de toute responsabilité en raison de ce bien consistant dans la foi. On peut encore demander si cette déduction de l'idée d'une justification de l'homme, coupable sans doute, mais pourtant arrivée à une intention agréable à Dieu, comporte un usage pratique, et quel peut être cet usage. Il ne faut pas chercher à voir quel usage positif nous en pouvons faire pour la religion et pour la conduite, étant donné que cette étude a pour fondement cette condition que ceux qu'elle concerne sont au préalable réellement dans la bonne intention requise. Intention que tout usage pratique des concepts moraux a proprement pour but d'aider, de développer et de stimuler. Car en ce qui concerne la consolation, la bonne intention la porte déjà avec elle, à titre de consolation et d'espérance, non à titre de certitude, pour qui a conscience de la posséder. Dans cette mesure, par conséquent, la déduction qui nous occupe n'est que la réponse à une question spéculative, que cependant on ne peut passer sous silence, parce qu'alors on pourrait reprocher à la raison d'être absolument impuissante à concilier avec la justice divine l'espérance que nous avons de voir l'homme absous de ses fautes, reproche qui, sous maint rapport, surtout sous le rapport moral, pourrait lui porter préjudice. Mais l'utilité négative que l'on peut en tirer, au profit de chacun, pour la religion et les mères, est d'une très grande portée. Cette déduction, en effet, nous fait voir que c'est seulement sous la supposition de la conversion totale que peut se concevoir l'absolution devant la justice céleste de l'homme surchargé de fautes. Partant que toutes les expiations, qu'elles soient secrètes ou solennelles, toutes les invocations et toutes les glorifications, même celles qui s'adressent à l'idéal représentant du Fils de Dieu, ne peuvent suppléer au défaut de bonne intention, ni, quand cette intention existe, en augmenter le moins du monde, la valeur devant ce tribunal. Car il faut que cet idéal soit admis dans notre intention pour tenir lieu du fait. Une conséquence tout autre est contenue dans la question suivante. Que peut se promettre l'homme, ou qu'a-t-il à craindre de sa conduite à la fin de sa vie? L'homme ici, tout d'abord, doit connaître son caractère, au moins jusqu'à un certain point. Par conséquent, même s'il croit avoir rendu son intention meilleure, il doit conjointement, avec cette intention, considérer l'intention ancienne, l'intention corrompue, qui fut la sienne tout d'abord, et pouvoir décider en quoi et dans quelle mesure il s'est dépouillé de cette intention, en même temps qu'évaluer la qualité, plus pure ou moins impure, ainsi que le degré atteint par la prétendue nouvelle intention, pour se rendre maître de la première et s'empêcher d'y retomber. Il devra donc toute sa vie faire un examen de son intention. Or, comme il ne saurait, par conscience immédiate, avoir de sa réelle intention un concept certain et précis, ne pouvant en juger que par sa conduite effective, pour connaître le jugement que prononcera le juge futur, la conscience morale réveillée en chacun de nous et appelant à son aide le témoignage de la connaissance empirique que nous avons de nos personnes, l'homme doit se dire que toute sa vie lui sera, un jour, placée sous les yeux, et non pas seulement une fraction de cette vie, la dernière peut-être, et pour lui, d'autre part, la plus avantageuse, à laquelle il pourrait ajouter de lui-même la perspective d'une vie menée plus avant dans la perfection, sans qu'il se fixât ici de limite, si elle avait plus longuement duré. Ici donc l'homme ne peut pas donner, comme valant des faits, l'intention qu'il a eue d'abord. Et c'est au contraire des faits évoqués devant lui qu'il doit tirer son intention. Peut-être le lecteur se demandait si cette pensée, qui rappelle à l'homme, et point n'est besoin que l'on prenne le plus méchant, beaucoup de choses que, depuis longtemps, il a perdu de vue avec légèreté. Si cette pensée, dis-je, quand on se bornerait à lui rappeler qu'il a Dieu de croire qu'il doit un jour comparaître devant un juge, si cette pensée seule décidera de sa destinée à venir d'après sa conduite jusqu'à ce jour. Si l'on interroge dans l'homme le juge qui se trouve en lui, il se juge sévèrement, car il ne peut suborner sa raison, Mais si on lui présente un autre juge, et qu'on veuille informer sur son compte, par des renseignements puisés à d'autres sources, il a affaire alors, contre la sévérité de son juge, de nombreuses objections tirées de la fragilité humaine. Et, d'une façon générale, il croit avoir prise sur lui, soit en prévenant le châtiment qu'il en recevrait par des punitions qu'il s'inflige à lui-même, comme marque de repentir, mais sans qu'elles prennent leur source dans une intention véritable d'amélioration, soit en réussissant à le fléchir par des prières et des supplications, et même par des formules et par des professions de foi. Et une fois que cette espérance lui est ouverte, selon le proverbe que tout est bien qui finit bien, il s'appuie là-dessus pour établir ses plans de très bonne heure, de manière à ne point se priver, sans nécessité, de trop de plaisir dans la vie, et à pouvoir, quand il touchera à sa fin, régler promptement son compte à son avantage. Note. L'intention de ceux qui, à leur dernier moment, font appeler un ecclésiastique est, ordinairement, d'avoir en lui un consolateur. Non des souffrances physiques que comporte la maladie suprême, et même à elle seule, la crainte naturelle de la mort. Car de ces souffrances, la mort, qui les termine, peut être le consolateur. Mais des souffrances morales, c'est-à-dire des reproches de la conscience. Or, il faudrait ici exciter plutôt cette conscience et l'aiguiser pour que le mourant, sans délai, fasse tout le bien qui lui est possible, détruise, répare le mal dans ses conséquences encore existantes. Selon cet avertissement, ouverture de guillemets. Mets-toi d'accord avec ton adversaire, celui qui a un droit à faire valoir contre toi, tant que tu fais route avec lui, tant que tu vis encore, pour qu'il ne te livre pas au juge, après la mort. Fermeture de guillemets. Mais au lieu d'agir de la sorte, donner comme de l'opium à la conscience, c'est commettre une faute. Et, contre le mourant lui-même, et contre des hommes qui lui survivent. Et c'est totalement contraire à la fin pour laquelle un tel secours spirituel peut être regardé comme nécessaire à la fin de la vie. Fin de la note.